Info rapide. On est de plus en plus nombreux et nombreuses en tant que freelance et entrepreneurs solo à ne plus en pouvoir des discours entrepreneuriaux qui prônent la croissance, les 6 chiffres annuels, le fait de toujours en faire plus et plus et plus. On cherche des alternatives, d'autres manières d'entrevoir l'aventure entrepreneuriale et le fait de développer nos business, mais malheureusement, la plupart des offres d'accompagnement, de coaching ou de formation sont encore uniquement dans un prisme croissance business. En ce moment, on est en train de faire, comme chaque année, notre période de recrutement pour les 30 personnes qui rejoindront la promo de notre programme Surf. Le programme Surf, c'est un programme d'accompagnement sur 2 ans, donc pensé pour le temps long, pour t'aider à passer un cap dans ton aventure entrepreneuriale et ton business freelance, mais pas seulement sur le business. Notre pédagogie, elle repose sur 3 piliers. Le business, bien sûr, nous sommes des entrepreneurs et on veut développer nos entreprises. Le développement personnel, ce qu'on préfère appeler nous l'épanouissement individuel, parce que dev perso, c'est un terme qui a une connotation de moins en moins sexy. Donc tout le travail sur toi, la personne, être épanoui dans ton travail. Et le 3e pilier, c'est ce qu'on appelle la pensée systémique. C'est entrevoir le business en prenant en compte des sujets sociétaux hyper importants, comme l'écologie, le féminisme, la justice sociale, etc., etc. Cette liste est longue. Et donc, ce qu'on accompagne les gens à faire dans le programme Surf, c'est avancer dans leur processus et leurs projets entrepreneuriaux sans sacrifier leur épanouissement individuel et en prenant en compte les enjeux les plus importants de notre civilisation humaine. Si tu penses que ça peut te correspondre et que tu veux faire partie d'un groupe de gens qui te ressemblent pour un accompagnement sur le long terme avec 2 coachs à tes côtés, peut-être que le programme Surf est fait pour toi. Pour le savoir, je t'invite à te rendre sur surfenfreelance.com. Je répète, surfenfreelance.com, et tu peux prendre un appel avec nous et notre équipe pour en savoir un peu plus. Les portes sont ouvertes en ce moment. J'espère avoir l'honneur de te compter parmi les membres du groupe de cette année. Et sur ce, bonne écoute de l'épisode. Salut à toi, et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge et chaque semaine, je t'emmène à la rencontre d'un freelance avec les mêmes rêves, les mêmes ambitions et les mêmes problématiques que toi pour qu'on apprenne ensemble de son expérience et de ses réflexions. Et cette semaine, j'ai eu le grand plaisir d'accueillir Benjamin Perrin sur le podcast. Alors si vous connaissez déjà Benjamin, c'est sûrement via son excellente newsletter « Plume with Attitude », une newsletter sur l'écriture pour vivre de sa plume et voler de ses propres ailes. Et on ressent rien que là, dans cette petite description de la newsletter, son goût pour la bonne tournure de phrase. Oui, vous l'aurez compris, Benjamin est copywriter. Dans cet épisode, du coup, on parle de l'importance de l'écriture, de la création de contenu quand on est indépendant, des différentes manières de se démarquer, notamment sur des secteurs de plus en plus concurrentiels comme la rédaction. Et justement, Benjamin donnera son avis sur qu'est-ce qu'est la concurrence et est-ce que ça existe. Et on parle aussi beaucoup de l'évolution de nos activités de freelance pour transitionner de ce qu'il appelle la talent economy vers la passion economy. Et Benjamin explique très bien ces 2 termes et c'était une conversation très intéressante d'ailleurs. Je vous invite à vous concentrer sur cette partie-là. Bref, un épisode plein de valeur avec quelqu'un qui se décrit sur son LinkedIn comme un indie creator. Et je vous recommande vraiment à tous de suivre Benjamin, ce qu'il fait est vraiment top. Et sur ce, je vous souhaite une belle, belle, belle écoute. On se retrouve à la fin.
Bienvenue sur le podcast, Benjamin.
Merci.
Je suis très content de discuter avec toi. Aujourd'hui, j'ai enregistré avec 3 créateurs de contenu. Et je pense que des 3, tu as la palme d'or de l'écriture et je crois de la newsletter la plus longue que je lis. Du coup, ouais, déjà, je voulais te remettre ce trophée fictif.
Merci beaucoup.
Pour donner un peu de contexte aux gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux te présenter, mais surtout en répondant à la question comment et surtout pourquoi tu es devenu indépendant?
Alors, je m'appelle Benjamin Perrin, je suis concepteur-rédacteur indépendant aujourd'hui. Je suis aussi l'auteur de la newsletter Plumes with Attitude, qui est une newsletter sur l'écriture qui s'adresse notamment à pas mal de personnes qui sont intéressées par l'écriture, qui soient soit en CDI, soit en indépendant, soit qui ont ça en tant que hobby, et aux créateurs de contenu en général. Alors moi, ma première expérience avec le freelancing, c'était en 2016, si je me souviens bien, après avoir fait le programme Lyon par The Family. Là, on va dire que j'ai plus eu des petites side hustle. C'était pour compléter mon revenu. J'ai écrit pour des boîtes comme You Love World et Welcome to the Jungle. Et au final, après, j'avais repris des CDI en startup.
Notamment chez Comet, à un moment.
Alors, chez Comet, c'est justement en 2017. Alors, c'est marrant, c'est un moment où justement, je m'étais dit, bon, bah, ça y est, les CDI, j'avais été assez déçu pour, par certaines startups avec lesquelles j'étais passé. Et là, je m'étais dit, ça y est, je deviens freelance, c'est bon, c'est sûr.
Mais tu t'es fait avoir par Comet.
Alors, ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, Comet, ça a été un de mes premiers clients à l'époque. Donc là, c'était l'été 2017. Donc, j'ai fait freelance avec eux au forfait pendant à peu près 2-3 mois. Et effectivement, en fait, le projet était assez assez fou. L'équipe était géniale pour moi. Et j'y croyais. Je pense que c'était le bon moment. Du coup, effectivement, j'ai abandonné mes bons principes et je suis repassé en CDI. Et alors, mon expérience avec Comet, c'est fini fin 2019, là, en octobre-novembre. Et j'ai repris un petit peu cette aspiration à être indépendant. Et là, j'ai créé une SASU. Alors, j'avais déjà ma newsletter à l'époque, quand j'étais chez Comet. Et je me suis dit que ça allait être intéressant de pouvoir y consacrer plus de temps. Et en même temps, à côté de ça,
avoir des missions.
Voilà.
Le pourquoi, ce serait pour toi pouvoir passer plus de temps sur tes projets perso, notamment la newsletter, et pouvoir développer d'autres choses à côté.
Alors le vrai pourquoi, je vais te dire, c'est alors le pourquoi de l'indépendance ou alors de la newsletter.
Alors pourquoi t'es devenu indépendant?
Pourquoi je suis devenu indépendant?
Pourquoi ce mode de vie te parle?
Je pense que quand on est concepteur rédacteur. Et même designer, je pense, les métiers plutôt créa. Je pense que c'est assez important de voir différentes choses, de bosser sur différents projets pour affiner un peu ta façon d'écrire, de créer. Et du coup, c'est un petit peu cette indépendance, indépendance de ton, indépendance de sujet que je recherchais.
Du coup, c'est intéressant que t'en parles. C'était une des questions que j'allais te poser à un moment. Je me permets de rentrer directement dans le bain, du coup. Il y a quelque chose que tu défends souvent dans tes contenus, dans tes newsletters, que effectivement pour quelqu'un qui est CR ou rédacteur web, ou en tout cas qui crée du contenu écrit, que ce soit en tant que freelance ou en CDI, tu dis que c'est très important pour eux d'écrire pour soi. Et dans ta dernière newsletter où tu interviewes Rachel Vanier, elle disait justement que c'est écrire pour son blog qui lui avait permis de développer son propre style, de commencer à se différencier aussi des autres parce qu'elle travaillait son style sur ses propres écrits. Qu'est-ce que tu penses de ça, du coup? Est-ce que c'est vraiment pour toi indispensable que les personnes qui écrivent aussi pour elles-mêmes et pas seulement pour leurs clients?
Honnêtement, oui, je pense. Si je dis ça, c'est parce que j'ai aussi fait pas mal de ghostwriting, soit pour des personnes, soit pour des entreprises.
Tu peux nous expliquer ce que c'est le ghostwriting pour les gens qui écoutent?
Le ghostwriting, c'est le fait d'écrire un texte qu'on ne signe pas. Ça existe pas mal dans les milieux politiques, notamment. Notamment pour les discours. Ça existe aussi dans la presse et en start-up. D'ailleurs, j'avais interviewé Kyle Hall, que je considère comme un véritable mentor, qui est un peu le ghostwriter en chef chez The Family, qui aide pas mal des personnes, des fondateurs de The Family à développer une sorte d'extension de leur pensée par l'écrit. C'est-à-dire que des personnes qui n'ont vraiment pas le temps.
Ou pour qui l'écriture, c'est pas le truc qu'elles adorent faire.
Voilà. Et ça n'empêche qu'elles ont plein de choses à dire.
Ouais, c'est clair.
Et qu'en gros, si elles réussissent à s'allier avec quelqu'un qui est capable de bien les comprendre, d'être sur la même longueur d'onde.
Choper leur ton aussi un peu.
Exactement, oui. Et de retranscrire ça à l'écrit, c'est un gain de temps énorme.
Et du coup, Qu'est-ce qui fait que le ghostwriting t'a emmené à te dire aujourd'hui c'est hyper important d'écrire pour soi et du coup j'imagine de signer tes propres œuvres?
Ben, en fait, le quand on y réfléchit, dès que tu n'écris pas pour toi, c'est un peu du ghostwriting. Okay. Dès que tu ne signes pas en ton nom, par exemple, même des sujets comme de l'UX writing, où tu vas refaire un petit peu tout le ton qui est sur un site, ou alors que tu vas refaire un parcours d'email, ou alors que tu vas faire une newsletter que tu ne signes pas.
Réaccueillir un article pour un client sur leur blog.
Ouais, si ton nom n'apparaît pas, effectivement, c'est un peu du ghostwriting. Et du coup, je pense que c'est bien que ça existe, le ghostwriting. Je suis assez pour ce genre de pratique.
Ouais.
Mais c'est un peu frustrant aussi de ne pas écrire pour soi et de ne pas avoir un petit peu le crédit et de pas dire
ça c'est mon œuvre quoi.
Et c'est même pas une question de dire ça c'est mon œuvre, mais c'est plutôt ça c'est ma façon de penser, ça c'est mon style, c'est pour ça que moi c'est ce qui m'a conduit à faire la newsletter du coup. C'est que j'avais un vrai besoin de d'aller sur des terrains où j'allais pas être limité, où j'allais pouvoir vraiment exprimer ma pensée sans me censurer, sans arrondir les angles.
C'est intéressant parce que du coup, je pense que c'est une peur que beaucoup de freelances ont d'assumer à 100% aussi leur point de vue, tu vois. Et certains, je pense, peuvent se complaire dans « je signe pas parce que je travaille pour mes clients, donc c'est pas vraiment mes points de vue et je me rends pas vulnérable par rapport aux personnes qui pourraient lire mes textes ». C'est quoi, du coup, pour toi, le passage, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête au moment où tu te dis « j'ai envie de vraiment assumer mon point de vue sur ces sujets-là » ? Genre, c'est quoi le déclic selon toi? Ou est-ce que tu avais jamais peur de ça?
En fait, y a un concept que j'aime beaucoup, c'est le concept d'Ikigai, qui est un peu réutilisé
On voit beaucoup
par
en ce
beaucoup
moment,
de monde, plus ou moins bien. Je pense que c'est important quand tu choisis soit une mission, soit un métier, soit un projet. Je pense que c'est assez important de garder en tête que il faut que ce soit un peu à l'intersection de ce que tu aimes faire, de ce pourquoi tu es bon, et en même temps ce que tu veux apporter aux autres et au monde extérieur.
Ouais.
Et du coup, moi, en fait, cette newsletter, elle permettait de regrouper un peu ces trois choses, c'est-à-dire que j'aime écrire, j'ai été payé pour ça, donc a priori, je m'en sortais pas trop mal, et en même temps, j'ai envie d'aider ceux qui écrivent et qui galèrent, ou alors ceux qui aimeraient écrire et qui n'arrivent pas à se lancer, ou alors ceux qui sont pas assez reconnus pour leurs écrits.
Ouais.
Et du coup, j'avais un petit peu l'impression que j'avais trouvé mon angle, dans le sens où j'allais faire un truc que j'aime faire, où j'allais vraiment pouvoir
apporter des choses aux gens.
Apporter des choses aux gens, tout en utilisant mon propre style. Mais après, je pense que la newsletter a aussi beaucoup évolué de façon plus ou moins visible. Au début, ça ciblait beaucoup, c'était beaucoup autour des missions. Donc, vu que j'étais en CDI encore chez Comet, j'ai cherché des missions pour les autres. Où j'allais vraiment prospecter des startups.
Trop drôle.
Et où je leur disais,
j'ai une newsletter pour les copywriters, est-ce que vous avez des besoins?
Ouais, voilà, où est-ce que vous en êtes au niveau de l'écrit? Est-ce que vous aimeriez accélérer votre production de contenu?
Est-ce que du coup, ça m'intéresse, on fait une petite tangente, mais quand tu démarchais ces startups, sachant que c'était pas pour toi, et c'était pour d'autres, est-ce que ton rapport de force, dans le sens où t'étais pas dans une posture de vente, est-ce que c'était plus facile pour toi du coup d'aller les démarcher? Tu te sentais plus à l'aise d'aller le faire, sachant que c'est pas pour toi?
Honnêtement, alors faut savoir que je démarche beaucoup moins maintenant. Y a pas mal d'offres qui viennent à moi.
Ouais, parce que tu as inversé le truc.
C'est ça, et j'encourage aussi la communauté à me relier les offres.
Ouais.
Donc ça c'est assez cool parce que moi ça me permet de prendre plus le temps d'écrire et moins le temps d'aller chasser.
Ouais.
Donc ça, c'est bien. En termes de rapport de force, je pense que oui, effectivement, c'est... En fait, je pense que quand on a une offre originale, on va susciter l'intérêt plus facilement. Et du coup, c'est pas une énième personne qui va vous contacter pour vendre ses services ou son produit sur LinkedIn. C'est quelqu'un qui ne vend rien parce que c'est gratuit. Et qui, en plus, fait ça pour les autres. Donc, il y a un petit côté... Je pense qu'il y a un petit capital sympathique qui s'installe et qui fait que parfois ça marche.
Ouais, et j'imagine que maintenant il y a des gens avec qui tu as tissé une relation comme ça au début, tu as créé un lien et maintenant tu les connais et maintenant que tu es free et qu'ils ont suivi le projet, ça se trouve qu'ils reviennent vers toi en se disant « Ah bah tiens, je me souviens, Benjamin, il nous avait proposé ça, est-ce qu'aujourd'hui, lui, il voudrait pas travailler pour nous, quoi? Alors, si c'est ton réseau un peu comme ça.
Ce qui est assez marrant, c'est que ça fonctionne parfois à l'inverse. Okay. C'est-à-dire que certains viennent pour moi. Mmh. Et du coup, si l'offre ne m'intéresse pas ou que je suis pas disponible, je le renvoie vers la communauté. Et en fait, je pense que ça, c'est une démarche qui est hyper intéressante. Mmh. Enfin, c'est quelque chose vraiment à exploiter quand on est freelance, dans le sens où c'est un peu dommage de dire non, je suis pas dispo et que ça s'arrête là. Ouais. Je trouve que c'est bien aussi de redistribuer aux autres, et notamment là avec Plumes of Attitude, c'est sous la forme de d'une audience, d'une communauté que j'essaye de créer. Donc, je trouve que si on réussit à faire un cercle vertueux comme ça, ben,
c'est intéressant.
C'est vraiment un prisme.
D'autant plus que si même si toi tu fais pas la mission alors qu'on te l'a proposée et que tu la redistribues à quelqu'un avec qui ça se passe bien, il y a une partie du crédit de ça qui t'est accordée à toi parce que du coup, ah, c'est trop bien, c'est Benjamin qui m'a recommandé cette personne ou qui m'a aidé à trouver cette personne. Et du coup, ça crée du lien avec toi aussi. Donc, tu continues de nourrir la relation avec le client même si t'as pas travaillé pour lui. Alors que si tu avais juste dit non, bah, t'as dit non quoi, et ça se trouve ils reviennent pas vers toi dans le futur, donc c'est vrai que c'est hyper intéressant. La raison pour laquelle je posais cette question du rapport de force à la base, c'est que la vente, c'est pas un secret, beaucoup de freelances ont du mal avec le fait d'aller se vendre et d'aller démarcher, mm-hmm. d'aller prospecter. Et quelque chose que je recommande souvent aux indépendants qui me suivent ou avec qui j'ai des interactions en événement, ce genre de choses, c'est plutôt que d'être dans une posture de vente, de se mettre dans une posture de ce que j'appelle le détective, où ils vont juste enquêter auprès de ses clients pour comprendre quels sont leurs besoins et créer un rapport comme ça et du lien comme ça. Et quand ils ont bien compris, et souvent après une discussion de genre une demi-heure autour d'un café pour les clients qui sont OK avec ça, ça inverse le truc où c'est la personne à qui tu parles et tu, genre, imaginons t'es mon client, je te pose plein de questions sur comment ça se passe dans ton activité par rapport à est-ce que vous créez du contenu, pourquoi vous en créez pas, c'est quoi vos freins avec, etc. À la fin de la conversation, il y a de grandes chances que le client dise « Mais du coup, ça m'intéresse, pourquoi est-ce que tu me poses toutes ces questions ?» Et presque, il t'autorise à lui proposer tes services derrière, alors que si tu arrives agressif dès le début, dans le sens où, comme tu dis, les messages LinkedIn où on me vend des trucs, on en a tous les jours, c'est insupportable. Et je trouve que c'est intéressant d'inverser ce rapport-là, justement. C'est pour ça que je te posais la question, parce que je pense que ça crée un lien différent avec des prospects.
Ouais, je trouve que c'est assez intéressant. Alors, c'est quelque chose qui peut être un peu vu comme chronophage,
oui.
Sauf que pour moi c'est un mal pour un bien, parce que au mieux t'as une mission, au pire t'as un contact. Cette personne a un réseau, des amis, elle peut parler de toi et en
fait changer de boîte dans le futur
et donc changer de boîte. Et c'est pour ça que moi je pense qu'il faut pas négliger l'humain dans tout ça.
Ouais, clair.
C'est-à-dire que c'est, enfin pour moi, la première qualité d'un vendeur, ça doit être d'être sympathique. Si t'as pas l'air sympa, si t'es un peu agressif et tout, enfin, je trouve que la première impression compte. Et que, si on a trop une approche à l'ancienne, ça ne marche plus pour moi.
Ouais.
Enfin, c'est quelque chose qui est trop rodé.
Je pense que le biais qui nous emmène à vouloir mettre en place ce genre de stratégie, genre du cold email où on scrape des énormes bases de données de 1000 mails et on envoie des mails à ces 1000 personnes, c'est que on est dans une culture qui est très attachée à la croissance, le chiffre, faire beaucoup. Et du coup, les gens se disent, si je fais pas énormément de choses, et donc pour faire énormément de choses, il faut que, tu vois, l'exemple, c'est les lettres de motif. Quand t'es étudiant et que tu cherches un stage, tu copie-colles la même lettre de motif à 500 personnes. Et ça, effectivement, je trouve que c'est parce que on cherche le chiffre et on veut pas faire du quali sur une petite cible de genre 10 personnes qu'on contacte de manière ultra ciblée en s'étant vraiment intéressé à eux, etc., etc. Et je trouve que du coup, c'est vrai que inverser ce truc et se dire, moi, une réflexion que j'ai, par exemple, à chaque fois que j'approche quelqu'un avec qui j'aimerais travailler ou avec qui j'aimerais faire quelque chose, c'est de me demander, c'est quoi le mail ou la prise de contact que cette personne rêve de recevoir aujourd'hui par rapport à où elle en est? Et j'écris ce mail-là. C'est-à-dire, je me mets vraiment dans les bottes de cette personne en me disant, si elle reçoit un mail sur ce sujet, c'est quoi le mail qu'elle rêve de recevoir par rapport à ses enjeux? Et en général, du coup, ça me met dans une autre ambiance et un autre mindset pour rédiger.
Ok. Tu fais des mails longs, juste pour savoir?
Ouais, c'est pas mal long en général.
Ok. Cool.
C'est intéressant, t'inverses le truc. C'est pas mal long en général. J'essaie vraiment de me plonger dans leur univers avant. Là, par exemple, je l'ai fait avec un invité du podcast qui est un très, très, très grand photographe que j'avais envie d'avoir depuis super longtemps, qui s'est lancé récemment dans... Il fait de la formation pour les photographes et il a pas mal de réflexions du coup sur le freelancing. Et en gros, je me suis dit, ben, qu'est-ce qu'il rêve d'avoir lui en ce moment? C'est des points de chute pour prendre la parole sur ce sujet, sur des audiences qu'il touche pas habituellement, parce qu'il est aux US, donc il touche une grosse audience anglophone et pas trop francophone, alors qu'il est français à la base. Mmh. Et du coup, mon approche, c'était de dire, t'es en train de créer tout ce contenu de malade pour les indépendants photographes, t'as telle audience aujourd'hui, moi j'adore ton message et en plus je suis dans ces formations, donc c'était logique quoi. Je lui ai dit, t'as envie de porter ce message à plus de gens, notamment en France, ben moi j'ai ce podcast, j'aimerais trop discuter avec toi, t'aider à porter ce message, etc., etc. Et ça renvoie le truc, je suis pas dans une posture de demande, mais je lui offre une opportunité en fait.
Ouais.
Et okay, du coup c'était hyper intéressant et on a grave discuté, il était super chaud pour le projet, donc je trouve cette inversion de pensée intéressante. Bref, on coupe là, mais petite divergence cool.
Mmh, bonne démarche.
J'ai envie de revenir sur cette question de écrire pour soi. Pour les copywriters, effectivement, pour moi, ça fait clairement sens. Et je pense que toutes les personnes dont c'est le travail d'écrire devraient aussi écrire pour soi pour travailler ces deux choses. Est-ce que tu penses que c'est aussi le cas pour les freelances, par exemple, pour qui c'est pas le métier d'écrire et de vendre des articles, par exemple? Est-ce que ces personnes-là aussi devraient écrire pour elles-mêmes?
En fait, pour moi, quand on y réfléchit... lire et écrire, c'est des choses qui c'est bon pour n'importe qui en fait. C'est il y a beaucoup d'études qui montrent que par exemple tenir un journal, c'est bon pour tous des aspects de d'équilibre personnel, de santé mentale. Et donc effectivement, je pense que quand on y réfléchit, écrire sur ce qu'on fait, c'est un peu documenter sa vie. Mmh. Et alors si on a des devs qui nous regardent, ils savent que la documentation c'est quelque chose d'assez important.
Et, ah, c'est intéressant de le retourner comme ça.
Pareil pour les entrepreneurs. Et du coup, je pense que effectivement, ça a du bon pour tous. La création de contenu aujourd'hui, c'est ce qui permet à la fois d'établir sa marque personnelle. Mmh. C'est ce qui permet aussi de prendre du recul sur ce qu'on pense, sur ce qu'on dit. Et ça permet aussi de, c'est un point d'interaction avec d'autres personnes. Et moi, c'est pour ça que, notamment que. Je recommande à quiconque, et mon meilleur conseil carrière de tous les temps, ce sera ça, c'est d'aller sur Twitter, dans le sens où c'est un début déjà pour apprendre à écrire, dans le sens où t'avais 140, aujourd'hui c'est 280 caractères.
Il faut être impactant quoi.
Faut être synthétique, mais en fait je pense qu'au-delà de ça, c'est même pas une question de il faut, c'est une question de ça t'ouvre vraiment la pensée, l'esprit à d'autres personnes qui écrivent et dont c'est pas le métier. Il y a beaucoup d'exemples et d'ailleurs dans les invités de la newsletter, j'en ai interviewé pas mal, des personnes comme Willy Brown qui est VC, c'est pas son métier d'écrire et pourtant il a déjà écrit un livre. Ouais. Il a écrit pas mal d'articles sur son blog, sur Medium. Anne-Laure, quand on y réfléchit, c'est pas non plus son métier d'écrire.
Ouais.
Anne-Laure Lequinf.
Ouais.
Enfin, juste après mon interview, elle a lancé sa newsletter qui cartonne. Mmh. Et je conseille à tout le monde de s'y abonner parce que c'est ouais, impressionnant.
Je mettrai les références dans la description pour tout ça.
Et voilà, donc je pense que faire de l'écriture une routine, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est indispensable.
Parce que tu le dis aussi, hein, tu le dis, je suis en train de lire du coup ce que tu avais écrit, je crois que c'est sur ton site ou je sais plus, ou peut-être dans ta bio LinkedIn, je sais plus exactement où c'est, mais... Tu dis, je suis convaincu que la lecture et l'écriture sont les deux compétences qui ont le plus d'influence sur notre futur.
Oui, mais j'en suis persuadé.
Moi, je pense que effectivement, ça fait sens. Quoi.
Peu importe le métier, t'as forcément besoin d'écrire et de lire. Ouais. C'est forcément ce qui va t'inspirer, ce qui va développer ta réflexion. Et je pense que si tu ne le fais pas, dans un sens, tu te limites. Et du coup, que tu sois entrepreneur et que tu veux... Je sais pas, lancer un nouveau produit, t'ouvrir à de nouveaux modes de pensée, ou que tu sois freelance et que tu veuilles explorer de nouveaux terrains, si tu fais pas ça, tu vas forcément avoir plus de mal.
Du coup, est-ce que tu penses que tout indépendant se devrait d'avoir sa propre newsletter?
Non, okay. Pas forcément. Je pense que c'est à chacun de choisir son canal de distribution privilégié.
Okay.
Alors oui, d'ailleurs, ça fait écho à un des trucs qui est hyper important quand on crée du contenu, c'est qu'il y a l'aspect création. Alors que ce soit l'écriture, la production d'un podcast, ou alors même si on est chanteur, le fait voilà, d'écrire une chanson, ouais, de composer, mais t'as aussi la distribution qui est essentielle.
Clairement.
C'est-à-dire qu'il y a des gens qui écrivent, qui sont sur Twitter, d'autres qui ont leur newsletter, et des gens comme toi qui font des podcasts. Il y a des gens qui font ça sur Instagram aussi, qui est un média que j'exploite pas du tout, mais
c'est des sortes de mini articles sur chaque photo.
Ouais. Il y a YouTube, bien sûr. Et donc, je pense que non, la newsletter en soi, moi, c'est un format que j'aime beaucoup parce que, alors, c'était une des tâches que je préférais faire chez Comet. J'avais déjà une newsletter à cette époque que j'ai tenue pendant plus d'un an et demi, chaque semaine, qui était assez appréciée d'ailleurs. Et en fait, c'est vraiment ce que j'adorais faire. Mmh. Et même, c'est ce que j'adore lire au quotidien. Ouais. Donc, je pense que le média que tu consommes, c'est potentiellement le média que tu as envie d'écrire après. Mmh. Moi, genre, je suis abonné à une trentaine de newsletters, qu'elles soient par des grands médias ou par des indépendants. Et ça me passionne, en fait. Donc, ouais.
C'est intéressant parce que, effectivement, moi aussi, la naissance de ce podcast, c'est j'écoutais des tonnes de podcasts. J'adorais le format. J'étais drogué à ça, quoi. Et du coup, je me suis dit, bah, moi aussi, j'ai envie de faire un podcast. Ouais, et c'est ça le début. J'ai envie d'apporter une petite réflexion supplémentaire à cet échange sur la newsletter. Moi, il y a un truc que j'ai vu souvent dans les contenus sur l'entrepreneuriat et dont moi-même je suis plutôt convaincu. C'est qu'aujourd'hui, en termes de canal d'échange et de création de liens avec une audience, avec des clients, avec des prospects, il n'y a rien de plus puissant que le mail. Dans le sens où tous les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a des algorithmes qui limitent la visibilité. Aujourd'hui, c'est très le cas sur Facebook, par exemple, moins le cas sur LinkedIn. Mais de toute façon, c'est pas dans notre contrôle en tant que créateur de contenu. Alors que le mail, la seule raison pour laquelle quelqu'un n'ouvre pas ton mail, c'est que ton objet de mail n'était pas bon ou alors qu'ils avaient trop de mails à ce moment-là. Ce qui limite beaucoup les chances de que ton contenu soit pas consommé ou lu. Et du coup, j'ai souvent vu des personnes dans les contenus sur l'entrepreneuriat dire on devrait tous avoir une newsletter parce que c'est le canal d'échange privilégié avec nos cibles. Bah, d'où ma question, en fait, à la base.
Je pense qu'encore une fois, c'est pour moi, dès que tu crées du contenu, il faut que tu réfléchisses à la fois à la création et à la distribution. Ouais. Et donc oui, le mail, enfin, il faut le tester, quoi qu'il en soit. Alors, soit c'est trop long, ça marche pas et tout, c'est possible. À ce moment, tu arrêtes.
Parce que tout dépend de toi et de ta cible aussi à qui tu t'adresses. Ouais. Et c'est des variables à prendre en compte. Mais j'aimais bien ce que tu disais sur le fait que tu ne penses pas que tout le monde doit l'avoir. Parce que pour moi, il y a un truc qu'on oublie trop souvent dans toutes ces choses-là, c'est revenir à soi et se demander, pour moi, qu'est-ce que je suis capable de faire pendant 10 prochaines années, par exemple. Toi, tu es grave capable d'écrire une newsletter pendant 10 prochaines années. Je suis grave capable de faire des podcasts. Mais par contre, écrire des articles, je ne le ferai pas tous les jours pendant 10 ans parce que ce n'est pas mon truc, moi, perso.
Ok. Ouais, non, mais c'est normal. Chacun son format. Et je pense que, enfin, il faut pas se mettre la pression par rapport au fait d'être sur une plateforme.
On m'a dit qu'il fallait faire comme ça.
Voilà. Et parce que souvent, quand on le fait, ça se voit. Et, c'est particulièrement vrai pour LinkedIn ou Facebook.
Ouais.
Encore une fois, des plateformes où l'algorithme a une place essentielle. Y a pas mal de gens qui créent du contenu sur ces médias. Et tu sens que c'est pas, ils aiment pas trop ça. Et ils sont un peu, ils essayent de reprendre un petit peu des petites recettes piquées à droite à gauche et avec plus ou moins de succès.
Ouais.
Et surtout, je pense qu'il y a un des gros problèmes, c'est qu'aujourd'hui, on est, tout à l'heure, tu parlais un petit peu de la culture de la croissance et tout. Moi, je pense qu'il y a un des problèmes, c'est la culture du hack.
Grave.
Tout le monde s'imagine qu'on peut tout hacker, notamment les algorithmes, ce qui est vrai en soi. Mais pour moi, ça sert à rien de vouloir hacker l'attention des gens. De un, parce que c'est un peu tordu comme idée. Et de deux, parce que...
faut la mériter, en fait.
Ouais, voilà, ça se mérite. Et puis en même temps, toi, t'as envie qu'on hacke ton attention.
Enfin,
non, personne n'a envie. Et du coup...
Ton cerveau, quoi.
Voilà, je pense qu'il faut juste... alors, j'aime pas trop l'expression « apporter de la valeur », mais c'est le cas. Il faut être utile aux gens, faut être sympa avec eux, et à partir de là, on va rester. En fait, l'attention sera méritée, et du coup, on sera lu, quoi.
C'est clair. Moi, ce que j'aime bien là-dedans, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est se souvenir qu'en face, c'est un être humain, en fait.
Oui.
Que toutes ces personnes, tu vois, genre, là, aujourd'hui, dans ma newsletter perso, j'ai à peu près 500 personnes qui sont abonnées. Dans la newsletter Surf en Freelance, il y en a à peu près 1000. Et à chaque fois, c'est dur, tu vois, quand tu vois genre 1000 personnes abonnées, de te souvenir que chacune de ces personnes qui s'est inscrite, c'est un être humain avec une vie, avec des problématiques, mmh. avec des tensions, avec des peurs, avec des angoisses. Et si tu les traites comme juste une ligne dans une base de données, tu t'es pas vraiment là pour les servir, en fait. T'es juste là pour faire du chiffre. Et à chaque fois que je me pose pour écrire une newsletter, j'essaie de me souvenir qu'est-ce que j'ai vraiment envie de dire à toutes ces personnes-là, comme si elles étaient en face de moi et qu'on avait une vraie discussion d'humain à humain, en fait. Mmh. Et je trouve que ça, c'est hyper important dans la création de contenu parce que sinon, tu brasses des chiffres, quoi.
Oui, bah c'est un peu tout ce qui est derrière le « do things that don't scale ». Je crois que c'est Paul Graham, il me semble, ouais. qui a beaucoup été repris par The Family.
Ouais.
Et c'est pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel, cette notion un peu de « care ». Il n'y a pas ouais. trop d'équivalent en français. J'aime pas trop parler en français, mais c'est difficile de trouver un mot pour « care
». Bah, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, j'ai fait un épisode avec quelqu'un sur le « customer care » et comment les freelances peuvent le savoir. Donc écoutez cet épisode-là, vous savez ce que c'est.
Ouais. Et pour moi, le care, c'est marrant, je te parlais de la formation Lyon que j'avais ouais. fait, qui a un petit peu été un de mes moments forts dans mon parcours pro. Et je pense que c'est un des premiers enseignements que j'ai eu, c'est un petit peu le care. Mmh. C'est-à-dire par rapport à ses clients quand on est un entrepreneur, par rapport à ses auditeurs quand on fait un podcast, à ses lecteurs quand on fait une newsletter, prendre soin d'eux, en fait,
ouais.
c'est important parce que déjà parce que c'est important de prendre soin de soi en général, et ensuite parce que prendre soin des autres, généralement, de un, ça va nous faire du bien, de deux, ça va leur faire du bien.
Ouais.
Donc et puis en plus, c'est une stratégie forcément gagnante.
C'est clair.
Donc on a tout intérêt à l'appliquer.
C'est clair. Il y avait un micro détail que je voulais adresser avant de passer à la suite de notre échange. C'est on parlait tout à l'heure de trouver sa propre manière de s'exprimer, etc. Et un truc que j'entends souvent chez les personnes qui se mettent à créer du contenu, et c'est, j'imagine, des choses qu'on t'a peut-être déjà dites toi, c'est ce que tu écris, ta newsletter, elle est trop longue. Parce que c'est vrai que ta newsletter, toi, sur Plumes de Vatitude, elle est longue, elle est blindée de contenu. Même moi, des fois, j'arrive pas à aller jusqu'au bout parce que c'est long. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui reçoivent cette critique ou qui l'ont en tête ou qui se disent c'est trop long, c'est chiant?
Bah, moi, j'ai le parfait contre-exemple à tout ça et c'est, je pense, une des références incontournables quand on crée du contenu, c'est Wait But Why,
ouais.
Le blog de Tim Urban, qui a vraiment une approche atypique, genre, j'ai jamais vu ça. Il est souvent imité, mais jamais égalé d'ailleurs. Et en gros, le principe de Wait But Why, c'est quelqu'un qui fait deux choses assez originales. De un, des articles très longs, où il part généralement des principes premiers.
Ils sont énormes, ces articles.
Ouais.
Tu mets genre presque des heures à le lire, en fait.
C'est ça, c'est ça. Et de deux, il fait des petits dessins, un peu, ça devait être fait sur Paint, à mon avis, au début, mais qui sont vraiment très minimalistes, qui sont vraiment à l'encontre de tout, toutes les tendances de flat design, de ouais. tout ça. Et c'est vraiment du picto, des personnages en bâton. Et c'est, enfin, ce blog, il est de renommée mondiale. Et, notamment dans le milieu de la tech. Et pour te dire à quel point ce blog a été influent, y a toute une histoire sur ça, mais Elon Musk lui-même avait contacté Tim Urban pour que Tim Urban fasse une série d'articles forcément longues sur un peu ce qu'il y a derrière le cerveau d'Elon Musk, sa vision avec Tesla, Solar City, SpaceX.
Parce que du coup, il était venu chercher cette façon de faire qui était d'écrire des articles très longs, très documentés, très en profondeur
ouais.
et qui a toute une audience pour ça quoi. Et je trouve que dans ce contenu là t'as l'occasion de creuser vraiment plus loin. Et moi, ce que je dis souvent aux personnes qui disent c'est trop long, c'est pas intéressant, je leur dis les gens qui vont aller jusqu'au bout de ce contenu là c'est les gens avec qui tu vas vraiment développer une relation et qui seront sûrement un jour tes clients.
Ouais.
Ceux qui vont te lire pendant 30 secondes, en fait, ils t'achèteront rien et on s'en fout presque.
Et puis même, ils se souviendront pas de toi, en fait.
Ouais.
Moi, j'ai envie de dire, c'est ça, quoi. Quand tu investis ton attention dans quelque chose qui dure plus de 15, 20 minutes de lecture, c'est vrai que c'est assez inhabituel.
Ouais.
Notamment dans un contexte où l'attention est de plus en plus limitée.
Ouais.
Mais, moi, il y a des articles, par exemple, de Wait But Why, de Nicolas Collin aussi qui fait ça.
Ouais.
Que j'aime beaucoup. D'ailleurs, sa newsletter est assez longue aussi et je la conseille à tout le monde. C'est juste quand t'es pris, c'est fascinant. Genre dans une de ses dernières newsletters, il a repris un peu. Il est allé avec son fils voir le parc Lego.
Ouais.
C'est au Danemark, je crois, ouais. Si je me trompe pas.
Je crois que c'est au Danemark.
Ouais, je crois que c'est ça.
Lego.
Et du coup, il refait toute l'histoire de Lego avec leur stratégie, leurs différents pivots, avec le digital.
Trop intéressant.
Avec aussi les tendances du fait que le plastique, c'est de plus en plus difficile à jouer sur ce créneau aujourd'hui, avec les enjeux écologiques actuels. Et donc, il retrace un peu toute cette histoire avec une documentation énorme.
Mmh.
J'ai lu ça, ça m'a pris un quart d'heure, 20 minutes. Et j'ai trouvé ça génial. Enfin, ouais. C'est en plus, c'est quelque chose que tu peux appliquer à ta propre stratégie, parce que quand on y réfléchit, faire un produit aussi iconique que Lego, nous, en tant que freelance, on crée aussi des produits. Ouais. Donc, je pense que c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Mmh. Et la meilleure façon d'y faire attention, c'est d'y accorder un petit peu de temps. Et du coup, ça va être de lire.
Merci pour ce partage, parce que effectivement, je trouve que ça, on va revenir sur le sujet des produits, mais pour nous, en tant qu'indépendants, de se demander comment je crée quelque chose d'aussi remarquable et iconique qu'un Lego, ou des choses dont les gens se souviennent vraiment et qui créent vraiment du lien, c'est une réflexion qui est hyper importante à avoir au-delà de juste comment je trouve des missions, quoi.
Ah oui, bien sûr.
Il y a un truc que, et juste, ça fait le lien avec ce que je vais dire là, ta phrase d'accroche pour ta newsletter Plume with Attitude, c'est vivre de sa plume et voler de ses propres ailes.
Ouais.
C'est le sujet dont on parlait en préparant un peu le podcast, c'était dans cette, ce qu'on appelle une verticale, mais dans ce secteur de la rédaction qui attire de plus en plus d'indépendants, où il y a de plus en plus de gens qui se lancent, on pourrait croire et se dire que c'est bouché. Selon toi, déjà, est-ce que c'est le cas? Et secondement, comment est-ce que des gens qui se lancent là-dedans, et on pourrait l'extrapoler à d'autres freelances après sur n'importe quel sujet, comment est-ce que tu tires ton épingle du jeu pour exister dans cet univers-là?
Bon, alors là, c'est vraiment une question tiroir, donc je pense que mon explication est assez longue.
Très bien.
Tout d'abord, tu m'as demandé, est-ce que c'est un secteur qui est bouché?
Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Oui et non. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, effectivement, qui vendent des services d'écriture. Mais alors de un, toute écriture ne se vaut pas, parce que c'est un travail créatif, donc ça ne se vaut pas. Ensuite, il y a la rédaction et il y a la conception rédaction,
qui ne sont pas les mêmes
qui ne sont pas les mêmes choses. Il y a la rédaction UX, il y a la rédaction long format, court format, la rédaction social media, de newsletter, le ghostwriting. Donc pour moi, en fait, quand on y réfléchit de façon globale, oui, effectivement, il y a beaucoup de gens qui écrivent. Mais ils écrivent des choses qui sont très différentes et surtout qui sont de qualité différente. Donc je pense que quand on arrive sur un marché bouché comme ça, ça sert à rien de cibler trop large. Il faut être hyper spécifique. C'est-à-dire, c'est quoi ta spécialité? Est-ce que tu es meilleur dans la synthèse? Est-ce que tu es meilleur dans l'analyse? Est-ce que tu es meilleur dans le court, le long format? Pour qui est-ce que tu as envie d'écrire?
Ouais.
Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que moi, j'aime bien écrire pour des startups avec qui j'ai une certaine affinité, pour des missions qui ont plutôt du sens. Et du coup, j'aurais peut-être un peu plus de mal à écrire pour le milieu politique, par exemple, ou les grands groupes, ou alors des univers dans lesquels je me reconnais pas, ou alors envers lesquels j'ai aucun intérêt. Tu parlais tout à l'heure de la photo. C'est un secteur que je connais très peu, pour lequel j'ai un intérêt, on va dire, assez modéré. Même si je respecte beaucoup, mais je serais incapable d'écrire pour un photographe, par exemple. Peut-être que ça changera, mais il faudra du coup que j'adapte un petit peu mon approche de ça.
Ce que je trouve intéressant dans ce sujet, effectivement, pour qu'on se rende compte à quel point, oui, il y a beaucoup de gens, mais en même temps, il y a tellement d'opportunités de demande. Moi, un exercice que j'aime bien faire, c'est dans tout ce que je vois sur une journée, voir toutes les transactions qui sont potentiellement derrière. Parce que pour un, imaginons, tu prenais l'exemple de The Family avec le ghostwriting chez eux. Pour un entrepreneur ou un DG ou un grand manager d'une grosse boîte, potentiellement, chaque post réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui l'a écrit et qui a été payé pour l'écrire. Pour chaque newsletter de chaque entreprise, c'est potentiellement quelqu'un qui est payé pour l'écrire. Pour chaque tagline, il y a tellement de choses. Et moi, j'adore me souvenir, derrière tout ça, il y a potentiellement une transaction. Et ça m'allège parce que je me dis, il y a tellement d'entreprises en France, il y a tellement de contenu que toutes ces entreprises créent. Que pour moi, il y a une abondance qui fait qu'il y a de la place pour tout le monde, même aujourd'hui, avec toutes ces effervescences, et même dans 10 ans, je penserai quand même qu'il y aura de la place pour tout le monde, si effectivement, comme je dis, tu choisis les gens pour qui tu as vraiment envie de le faire, donc tu crées de la spécificité. C'est un sujet complètement à part, dont on parlera peut-être dans la freelance hotline après, de généraliste vs spécialiste. J'ai un avis assez particulier sur la question, mais je ne vais pas rentrer dedans, sinon ça va me prendre très longtemps. Mais en tout cas...
J'ai hâte de l'entendre, parce que c'est vraiment le thème de ma newsletter payante que j'ai envie de lancer.
Ah, intéressant. Ben, on en parlera avec grand plaisir juste après. Mais je pense effectivement qu'il faut se rendre unique. Et la manière dont moi je vois que les gens peuvent se rendre uniques, c'est juste traduire qui ils sont, parce que de base, ils sont uniques. Mais très cool, en tout cas, ton avis sur la question. Tu parles de ta newsletter payante, transition parfaite. T'es en pleine réflexion sur ça en ce moment, pour productiser en gros toutes tes compétences. Tes compétences, c'est l'écriture. T'as une newsletter gratuite qui marche super bien, plus mauvaise attitude. Et la réflexion qu'on partageait la dernière fois quand on prenait un café et on discutait, c'était comment est-ce qu'aujourd'hui tu peux mettre tes compétences au service d'une sorte de produit payant pour ton audience. Tu nous partages un peu ta réflexion?
Alors, en fait, ma réflexion est liée à une grosse tendance aujourd'hui sur le marché qui est celle de la passion économie,
okay.
Donc comme la passion.
Ouais.
C'est une tendance qui est hyper hyper importante pour moi et qui va vraiment être décisive dans les années et même les décennies à venir. Mmh. C'est alors l'idée derrière la passion économie, c'est que pour moi c'est un peu l'évolution de la talent économie. Donc au début, t'as la gig economy, façon Uber et Deliveroo, avec au final, c'est ton offre qui est très peu diversifiée, qui est uniformisée, et donc avec un prix qui est sur lequel tu n'as pas vraiment le contrôle.
Ouais. Donc en gros, un gig en français, ce serait genre une petite opportunité pour un tout petit taf pour gagner quelques billets, quoi.
C'est ça.
Entre guillemets.
Ça vient des musiciens de base, le terme de gig. C'est exactement ça. Après, la talent economy, c'est l'économie plutôt du freelancing des knowledge workers, on va dire. C'est-à-dire que ce soit le design, le produit, le développement, la rédaction.
Donc des gens qui ont des compétences clés importantes pour designer le projet et qu'on vient chercher pour ça.
Où là, effectivement, c'est une économie dans laquelle ton offre va être spécifique, comme on disait juste avant, et non standardisé.
Okay.
Et du coup, les prix vont vraiment évoluer d'une personne à l'autre.
Okay.
C'est-à-dire qu'entre mon tarif de copywriter et le tarif de quelqu'un d'autre, il peut y avoir un écart du simple au double, au triple, ou c'est à chacun de se positionner, en fait.
Ouais.
Et la passion économie, alors ça, c'est encore plus fascinant. C'est en fait le fait de monétiser ces hobbies, mais plutôt sous forme de produits.
Mmh.
En gros, la talent economy, c'est une économie essentiellement de services.
Ouais.
La passion economy, c'est beaucoup plus autour du produit. Ce qui est intéressant, c'est qu'un produit, par définition, est plutôt scalable, alors qu'un service ne l'est pas.
Parce que tu vends ton temps, quoi.
Exactement, parce que tu vends ton temps. Donc, l'intérêt de créer un produit, c'est de faire en sorte que tu vas créer une récurrence de revenus.
Ouais.
Qui va te permettre soit de gagner de l'argent sans travailler, parce que tu travailles une fois et tu vends X fois, soit tu travailles, mais pour un truc qui te tient vraiment à cœur. Donc au final, c'est plus que du travail, c'est aussi un plaisir, une passion.
Et ce que je vois dans... Alors j'espère que du coup on m'entend, parce qu'il y a les sapeurs-pompiers juste derrière. ce que je vois dans l'évolution qu'on pourrait avoir de talent economy, donc nos profils à nous freelance, vers la passion economy, c'est des profils de, par exemple, un vidéaste qui va créer un nouveau grip pour utiliser sa caméra d'une meilleure manière. C'est-à-dire qu'il crée un produit qui est complètement complémentaire à son expertise et qui soit va augmenter ses services, soit qu'il va pouvoir mettre à disposition de d'autres personnes qui ont les mêmes enjeux que lui, les mêmes ambitions et les mêmes aspirations. Ce qui est clairement le cas, par exemple, avec moi, les programmes d'accompagnement que j'ai créés, surf, avec les événements, avec ce podcast, c'est partager les choses que j'apprends sur un sujet qui me parle énormément, qui est le freelancing et le fait de développer son activité individuelle pour d'autres personnes. Et toi, effectivement, du coup, l'idée maintenant, c'est de ta newsletter, c'est quoi?
Alors, l'idée, tout d'abord, c'est de continuer la newsletter gratuite, qui là, aujourd'hui, je suis content, j'ai sorti la 12e édition. Et vu que j'en sors deux par mois, ça veut dire que j'en suis à 6 mois. Donc, ce qui est une petite étape en soi. Donc là, ça va être continuer tout simplement de faire grandir ce média et de l'étendre vraiment à un maximum de personnes et de sensibiliser le plus de monde possible à l'écriture, la lecture et à ses bienfaits et à leurs bienfaits.
Ouais.
Et alors, l'autre côté, ça va être de créer un produit payant qui sera sous forme d'abonnement, un petit peu comme un Spotify où on paye 10 euros par mois pour du contenu.
Okay.
Et ben là, ce serait pareil, sauf que ce serait du contenu de moi. Et donc, ce serait forcément un contenu plus spécifique,
ouais.
mais aussi un contenu plus... enfin, une source de revenus, on va dire, plus significative pour moi. Dans le sens où, effectivement, aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on peut avoir gratuitement.
Ouais.
Mais créer un produit payant, on va dire que c'est un peu plus audacieux, c'est un peu plus engageant pour ton audience.
Mmh.
Et alors moi, ce qui est marrant, c'est que c'est le fondateur de Substack qui m'a convaincu de le faire. Il m'avait contacté en fin d'année 2019,
ouais.
alors que ça faisait seulement 3 mois que je faisais ma newsletter gratuite,
ouais.
et que c'était une newsletter francophone. Donc c'est assez fou qu'un des gros profils de la Silicon Valley ouais. vienne comme ça me contacter juste pour savoir ce que je fais, comment ça se passe. Et, c'est ça qui fait d'ailleurs que j'adore Substack, qui est pour moi un des porte-drapeaux de toute cette passion économie.
Ouais.
Et du coup, le fait de monétiser, bah moi, ça me permettrait de créer véritablement une sorte de petite rente
mmh.
et en même temps un avantage compétitif, dans le sens où je pense qu'aujourd'hui, quand on est freelance, on est un peu plus sensible à la diversification de ses sources de revenus,
ouais.
tout simplement parce qu'on a un portefeuille de clients, donc on applique des logiques de portefeuille qu'on peut retrouver un petit peu dans l'investissement.
Ouais.
Et d'ailleurs, pour moi, réfléchir comme un investisseur, c'est une clé essentielle ouais. quand on est freelance.
Clairement.
Et du coup, le fait de diversifier ses sources de revenus, ça passe par la création de produits. Donc, que ce soit, voilà, comme tu disais, que ce soit des cours, que ce soit des formations, produits physiques, que ce soit des communautés.
Ouais.
Ça, c'est aussi important. Hein. Rodolphe Dutel, par exemple, qui a une communauté payante avec Remotive.
Ouais.
C'est des trucs qui... Enfin, cette notion de club, moi, ça m'inspire beaucoup.
Mmh.
Et ce fait de payer pour avoir accès à une communauté qui va nous permettre d'aller soi-même d'un point A à un point B,
ouais.
c'est essentiel. C'est essentiel.
Et clairement, je vois... c'est un sujet qui revient souvent sur le podcast aussi, l'influence qu'ont les gens qui t'entourent. Mais une phrase que j'adore dire, qui peut sonner un peu cliché, mais je l'observe tous les jours à quel point ça a un impact, c'est que tu deviens les personnes avec qui tu t'entoures. C'est-à-dire que si dans ton entourage, t'as pas d'indépendant, t'as pas d'entrepreneur, t'as pas des gens qui pensent comme toi sur ces problématiques, ben forcément, les personnes, elles vont t'attirer vers leur réalité, leur vision du monde petit à petit. Alors que si tu traînes que avec des gens qui ont les mêmes circuits de réflexion que toi et qui te challengent parce qu'ils font la même chose mais différemment, ça te pousse à constamment grandir, te développer, à réfléchir différemment. Et c'est pour ça que cette notion de communauté, je la trouve hyper forte et hyper importante, parce que tu t'engages avec des gens qui veulent la même chose que toi, qui cherchent la même chose, qui ont les mêmes ambitions et problématiques, et ensemble, vous avancez.
Alors, c'est marrant parce que moi, c'est quelque chose que, avec lequel je ne suis pas tout à fait d'accord.
Ah,
je pense
bien.
Que c'était vrai dans une certaine mesure, mais je pense qu'Internet a vraiment... tout changer.
Mmh.
Moi, je pense que t'es pas seulement la moyenne des 3 personnes, de tes 3 meilleurs amis ou que tu fréquentes. Je pense que t'es la moyenne des gens que tu suis sur Twitter. Je pense que t'es la moyenne des newsletters que tu suis.
Mmh.
Je pense que t'es la moyenne des réalisateurs que tu aimes bien. Je pense que t'es, t'es un peu la moyenne
de tout
le contenu que tu consommes.
Mmh.
Et effectivement, ce contenu, ça peut être. En fait, quand on y réfléchit aujourd'hui, tout est contenu. Une conversation. Là, la conversation qu'on a, c'est du contenu. Mais je sais pas, la publicité que je vais voir en sortant dans le métro, c'est du contenu.
Ouais.
Le film que je vais aller voir demain, c'est du contenu. Le texto que je vais recevoir d'un ami, c'est du contenu. Et en fait, je pense que une bonne façon de s'élever en tant qu'individu, notamment quand on n'a pas forcément la chance d'être dans un écosystème comme Paris, qui est quand même hyper utile pour rencontrer des gens en physique, tout simplement de traîner sur Internet. Moi, j'aime beaucoup dire que toutes les réponses à toutes nos questions sont sur Internet.
Ouais, c'est
clair. Et que du coup, ce qui est fou avec Twitter, j'en parlais tout à l'heure, c'est que pour moi, c'est le réseau social de la pensée. Mmh. Et tu vas accéder à la pensée de personnes comme, je sais pas, Elon Musk, Naval Ravikant, Des personnes comme Patrick Collison, le fondateur de j'ai un trou, le fondateur de Stripe.
Oui.
Y a plein de personnes brillantes.
Ouais, qui sont là et qui affichent leurs pensées en fait.
Voilà. Parce qu'elles partagent. Et c'est pour ça que pour moi c'est hyper vertueux dans le sens où Instagram c'est plutôt le réseau social de l'image.
Ouais.
Mais l'image ça va pas forcément être utile et ça peut être trompeur. Mmh. Et alors que Twitter au final je trouve que c'est beaucoup plus vrai. Et pour moi c'est une richesse. Mmh. C'est genre incroyable.
Bah du coup tu fais merveilleusement la transition parce que je voulais te poser la question de toi qui suis beaucoup de ces personnes et t'en as déjà cité toute une flopée dans l'épisode et je les mettrai en description, c'est top. Mais si t'avais par exemple un top 3 que tu recommandes à tout freelance de suivre, que ce soit des freelance copywriters, d'ailleurs on va faire deux top 3 si tu veux, si t'as envie de séparer, le top 3 des copywriters que des gens qui écrivent, que les gens qui écrivent devraient suivre. Et le top 3 des gens que tout freelance devrait suivre, selon toi, pour accéder à leurs pensées, développer leur activité, réfléchir différemment, etc.
Alors, tout d'abord, je voulais dire que ce genre de conseil, je trouve ça bien. Mais je trouve ça aussi un peu limitant, dans le sens où, effectivement, il y a des références dans leur domaine. Mais pour moi, se créer un petit peu cette image unique, c'est en allant chercher ces références dans d'autres domaines. Du coup, je vais pour moi citer les références des domaines. Alors, en tant que copywriter, pour moi, il y a David Perel que beaucoup de personnes citent. Je connais pas encore trop, pour être franc, mais c'est vrai que sur Twitter, c'est quelqu'un qui, au-delà de bien écrire, pense très bien aussi.
Okay.
Enfin, il aborde des sujets qui sont vraiment géniaux. Pour moi, il y a Anne-Laure Lequin. Qui alors elle sera plutôt pour la deuxième question.
Donc, ouais.
On oublie Anne-Laure. Alors la deuxième personne c'est comment dire, elle s'appelle, alors je vais écorcher son prénom, désolé à elle, c'est Anna Codrea Rado je crois, qui a une newsletter qui est genre incroyable. C'est marrant, j'ai découvert après avoir créé Plumes of Attitude, mais c'est un peu l'équivalent anglophone mais plutôt dans une perspective média journalisme. Dans le sens où elle recense dans sa newsletter pas mal de conseils pour les pour des plumes, on peut dire. Par exemple, sur la négociation de ses tarifs, la création de son offre. Et pour moi, elle est vraiment très, très inspirante. D'ailleurs, elle a une newsletter Substack aussi, avec une newsletter payante, Substack. Mmh. Donc, moi, je pense que c'est quelqu'un que j'interviewerai un jour dans ma newsletter. Et alors la troisième personne que je dirais en tant que sur le copywriting, c'est, alors je me souviens plus comment s'appelle son nom, mais c'est Eddie de Very Good Copy.
Ok.
Bon, je te laisserai ressentir
ouais,
la référence.
Le nom.
Mais lui pour le coup, c'est vraiment sur la conception rédaction publicitaire, sur de l'emailing, c'est plutôt un truc à l'ancienne. À l'ancienne, à la sauce moderne bien sûr, mais ouais voilà, c'est un peu la définition traditionnelle du copywriting. Lui il est très bon pour ça.
Okay.
Donc lui en conception rédaction, David Perel sur l'écriture et la pensée de façon générale, et sur des aspects un peu plus pratiques, Anna Codrea Rado.
Ouais,
désolé,
je retrouverai si elle nous écoute, désolé.
Oui.
Ok. Et est-ce que du coup t'as des gens, pas forcément sur la rédaction, mais plus
façon globale
global pour les indépendants?
Alors, pour moi, il y a Anne-Laure Lequin.
Ouais.
C'est, elle est entrepreneur. Elle est pas tout à fait indépendante. Elle est, en fait, elle a Nest Labs, qui est un startup studio.
Okay.
Mais après, elle a plein d'autres projets. Pour moi, c'est quelqu'un, typiquement, dans sa façon de créer des produits, elle est vraiment très forte.
Est-ce qu'il va avec ce que tu disais avant, d'aller s'inspirer d'autres domaines que forcément
l'autre? Ouais.
Pour moi, il y a énormément de choses que les freelances pourraient apprendre du monde des startups, énormément de choses que les freelances pourraient apprendre du monde des makers ou des auteurs, ou
oui,
des gens qui créent dans le sens strict au sens du terme création. Tu vois, l'exemple tout bête qu'on ressort à toutes les sauces, c'est Apple qui s'est inspiré des hôtels de luxe pour créer ses boutiques, et des expériences luxe pour l'ouverture des paquets des iPhones, etc. Tout ça, en fait, effectivement, je trouve que c'est une vraie compétence de dire comment je vais chercher des choses dans d'autres domaines et je les ramène dans le mien pour que les gens ils aient une expérience qu'ils n'ont jamais eue auparavant parce que je suis allé les chercher ailleurs et je suis pas juste en train de, comme tu dis, copier les bonnes pratiques que j'ai vues sur sur un autre copywriter qui a le même métier que moi, ce genre de choses, quoi. Et c'est là où on crée des choses qui sont spécifiques et uniques. C'est vrai. Pour revenir sur ce sujet.
Ouais. Et alors, du coup, il m'en manque deux.
Du coup, il t'en manque deux.
En deuxième, je vais dire quelqu'un que j'aime beaucoup aussi, pour qui j'ai beaucoup d'estime. C'est Rodolphe Dutel.
Ok.
Pour moi, Rodolphe, ce qu'il a réussi à créer avec Remotive, ouais, avec son livre également, qui est très bien.
Ouais,
c'est clair. Et avec même son parcours, et surtout ses prises de position sur le télétravail.
Ouais. Ses tweets sont géniaux d'ailleurs à Rodolphe. À chaque fois, je trouve ça super drôle.
Pour moi, en termes de distribution de contenu, Rodolphe, il est très bon.
Ouais.
Il est vraiment très très bon. Donc, pour moi, c'est un exemple à suivre. Et le troisième, alors j'ai déjà cité Wait But Why, donc je vais pas le dire. Je vais citer un troisième qui sort un peu des sentiers battus. Qui est-ce qu'on peut dire? Je pense que
une de tes newsletters, par exemple, une des 30 que tu suis.
Alors si, je pense qu'on va dire Basile Samel, que j'ai aussi reçu en interview. Basile Samel, il est extrêmement intéressant, dans le sens où c'est quelqu'un qui a fait une streak, donc une série de... Là, il doit être à 450 jours, à mon avis, ouais, d'écriture, où il a écrit du coup un article d'au moins 200 mots.
Par tous jour. Les jours pendant 400 ouais. quelques jours.
Donc je l'avais interviewé. Alors c'est quelqu'un qui est dev en même temps que d'être une plume.
Super exemple.
Donc je trouve que c'est hyper intéressant parce que en tant que dev, tu construis des produits.
Ouais.
En tant que plume, tu proposes plutôt des services. Lui, il réussit à faire vraiment le pont entre les deux mondes. C'est
super
un bel exemple de maker qui en plus a vraiment de la suite dans les idées, qui ouais. est très très inspiré. Donc pour moi c'est...
Et c'est intéressant avec le sujet de la spécialisation parce que le conseil qu'on aurait pu lui donner c'est t'es obligé de choisir et t'es obligé de te spécialiser et être dev en machin ou plume en machin. Et effectivement je trouve que c'est un top exemple de quelqu'un qui s'est dit en fait j'adore les deux, j'adore la réflexion dans les deux, qu'est-ce que je peux faire pour créer un lien et faire en sorte que ça soit cohérent.
Ouais, l'an dernier il y avait un article qui l'a sorti que j'ai trouvé vraiment immense. Je crois que c'était lui. Si c'est pas lui, bon bah tant pis. C'est un cadeau. C'est le fait de trouver sa propre niche.
Ouais.
Et ça, je trouve que c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner à n'importe qui, que ce soit dans le freelancing, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou que ce soit même dans sa vie personnelle, c'est de trouver son propre créneau et de trouver sa niche sur le son créneau sujet. Sur lequel on va être vraiment unique. Et d'ailleurs il y a une citation de je sais plus qui, je crois que c'est Oscar Wilde qui dit be yourself, everyone else is already taken.
Yes.
Et c'est exactement ça le principe de trouver sa niche, c'est-à-dire que on sera jamais, enfin il y a une seule chose à laquelle on sera le meilleur dans sa vie, c'est d'être soi-même. Donc autant l'être.
Tellement d'accord.
Autant l'être, et en plus si ça marche ben
ouais,
c'est bien. Et je pense qu'aussi la personne qu'on est, c'est pas quelqu'un de fixe. Donc je pense que la personne qu'on était hier, c'est pas la même que celle qu'on est aujourd'hui, que celle qu'on sera demain, que celle qu'on sera dans 5-10 ans. Donc au final, enfin j'aime pas, je suis pas forcément partisan de cette approche très Silicon Valley, mais voilà, si on se considère nous-mêmes comme un produit en tant que freelance, voilà, ajoutons des fonctionnalités, améliorons l'UX writing, tout ça, le branding. C'est une pensée qui est très intéressante. En
ouais, bah, on va arriver sur les questions rituelles de fin, mais un dernier petit mot sur ça. Moi, c'était ma réflexion depuis quand j'ai commencé mes études en marketing. Du coup, j'étais en licence, je devais trouver mon alternance. Et le marketing, c'était le truc qui m'intéressait le plus. Et en fait, je me suis dit, quand je cherchais cette alternance, je veux faire du marketing. Si je suis même pas capable de vendre moi, qui suis le produit que je connais le mieux, comment puis-je prétendre vendre autre chose en faisant du marketing et de la com? Et du coup, c'est vraiment la réflexion que j'ai eue en trouvant mon alternance. Plutôt que de répondre à des offres, j'ai essayé de me productiser. Donc, j'ai fait un site sur moi. J'ai fait toute une campagne en mode tweet bombe pour des agences pour trouver mon alternance. D'ailleurs non, c'était pas mon alternance dans L3, mais c'était le début de M1. Et du coup j'avais grave cette réflexion de me dire en fait je suis le meilleur produit auquel je peux prétendre vendre, donc comment est-ce que je fais pour me mettre en avant comme un produit et de donner envie aux gens de m'acheter entre guillemets en m'offrant une alternance à l'époque, mais aujourd'hui ça serait pour m'offrir des missions ou un CDI, si un jour on me propose un CDI, que je ne prendrai pas d'ailleurs.
Pourquoi?
Parce que je suis amoureux de ce mode de vie du freelancing. En fait, j'y vois tellement la liberté de me dire, j'ai une idée, un truc que j'ai envie de faire, j'ai toutes les cartes en main pour m'organiser pour le faire. Et là, aujourd'hui, par exemple, je suis en train de complètement repenser mon mode de vie et j'ai aucun attachement géographique dans le sens où si j'ai envie de bouger et d'imaginer un autre mode de vie, le seul responsable de comment je m'organise pour le faire, c'est moi. Et ça, je trouve cette liberté incroyable et je suis pas prêt à signer un bout de papier qui me l'enlève.
Après, avec la montée du télétravail, tu peux...
Oui, c'est vrai, télétravail et remote, effectivement, et ça peut échanger. Ouais.
Et une autre tendance aussi de laquelle on parle un petit peu moins, c'est tous ceux qui signent des CDI à 3 ou 4 cinquièmes,
ouais,
qui permet de faire un très bon équilibre c'est entre... Parce que je trouve que quand on est freelance, une des choses qu'on peut... enfin, qui peut nous manquer, c'est le côté s'investir vraiment dans un projet. Produit, dans ouais. un projet, avec une équipe. Et c'est pour ça que pour moi, il faut avoir son propre projet.
Ouais. Parce que c'est vrai, le podcast, depuis que j'ai ça, c'est clair que c'est le truc où je m'investis le plus.
Ouais, voilà, c'est un peu ta pierre angulaire. Ouais. Et en plus de ça, alors la petite astuce que je vais donner de fin, c'est que si tu crées ton propre projet, tu vas augmenter ta propre valeur. Et ouais. donc, effectivement, tout ce travail, entre guillemets, gratuit que tu vas faire, peut avoir un impact sur ton TJM, sur ton image, sur ton réseau. Et donc, quand on y réfléchit, même économiquement parlant, ça a totalement du sens
ouais, c'est clair.
De passer du temps à faire des choses gratuites.
Ouais, c'est clair. Parce que c'est vrai que la valeur perçue des autres, notamment de tes clients, elle augmente. Pour venir sur les trois dernières questions, du coup, la première, c'est depuis ta vie de freelance et d'indépendant, tu peux prendre le tout début quand tu as commencé à expérimenter en 2016. C'est quoi la plus grosse galère que tu as eue et comment tu as réussi à la surmonter?
Je pense que la plus grosse galère que j'ai pu avoir, c'est... Alors, c'est encore récent là que je m'y suis mis à plein temps, mais je vais parler plutôt dans la vie de façon générale. Je pense que c'est la façon de gérer son temps et notamment de faire des arbitrages entre justement faire des missions pour des clients ou alors faire son propre projet ou alors développer quelque chose de nouveau. Genre, par exemple, j'ai toujours pas de site internet, faut que je m'y mette. Donc, je pense que pour moi, la gestion du temps, c'est un truc qui est assez clé à gérer. Et en plus, la gestion du temps, c'est aussi la gestion de ses émotions, c'est la gestion de son énergie. Aujourd'hui, il y a pas mal de sujets. On parle de burn-out, de bore-out, burn-out. Donc, soit des gens qui en font trop, soit des gens qui s'ennuient, soit des gens qui ne trouvent aucun sens à ce qu'ils font. Et au final, la façon d'allouer ton temps va te permettre de surmonter tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on est freelance, c'est aussi important d'aller au cinéma, d'aller se balader, d'aller faire du sport, de lire, de tenir un journal quand on en a un. Donc, je pense qu'il y a, énormément de choses qu'on fait dans une journée qui est de dormir aussi. Ça, c'est extrêmement important, le fait d'avoir son nombre d'heures de sommeil, c'est hyper important, notamment quand on fait un métier créatif. Donc, pour moi, la gestion de son temps, c'est quelque chose sur lequel je suis encore je suis encore assez novice sur ça. Je suis quelqu'un qui a pas trop de structure, pas trop de discipline, donc c'est des choses que j'apprends énormément, mais c'est quelque chose auquel je suis hyper vigilant.
Ouais, et ta part de plus en plus importante.
Et pour moi, effectivement, c'est une question qu'il faut traiter dès le début.
Okay.
C'est-à-dire se créer des routines vertueuses. Ouais. Encore une fois, Basile Samel, c'est quelqu'un qui avait interviewé, qui parlait beaucoup de ça. Et c'est un petit peu son moteur, son fuel, c'est de créer des routines vertueuses.
Okay.
Et pour moi, c'est la clé et c'est ce que j'aurais aimer peut-être savoir dès le début quand j'ai été freelance.
Ouais. Bah du coup, bonne transition pour la question d'après. Si t'étais face à ton toi plus jeune, à ton tout premier jour, ta toute première expérience en freelance, c'est quoi le conseil majeur que tu te donnerais à toi-même à l'époque?
Pour moi, dire non, je pense. Le fait de quand on est freelance, notamment qu'on débute, on s'imagine que c'est un peu par son portfolio, par ses clients, ses références, qu'on va acquérir une notoriété et faire monter son TJM. Pour moi, c'est totalement faux, notamment parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont vous proposer des missions à des tarifs ridicules quand on est débutant. Et il ne faut pas les prendre, typiquement, il faut pas les prendre. Parce que pour moi, ça peut porter du préjudice à court terme, dans le sens où effectivement, on va augmenter son TJM plus lentement. C'est-à-dire que forcément, si on commence à faire des articles à 50 euros, alors que ça vaut le triple, voire le quadruple, si on écrit bien, si on est capable de faire de la qualité, ça doit se payer. Et il y a trop d'entreprises, trop de médias qui essayent de tirer parti de soit l'inexpérience, soit le manque de confiance de certains freelances pour tirer les prix à fond vers le bas et qui vont en fait appliquer des logiques de gig economy à des métiers qui appartiennent à la talent economy. Donc pour moi, dire non, dire être capable de dire je vaux mieux que ça ou alors être capable de dire ça ne m'intéresse pas, c'est
une vraie compétence.
C'est c'est quelque chose qu'il faut vraiment développer.
Ouais. Trop bien, je suis entièrement d'accord avec ça. Et la dernière question, qui est la question du podcast. Pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi la question que tu veux justement leur poser à eux pour qu'ils prennent cette semaine pour vraiment réfléchir à leur activité, leur mode de vie de freelance, enfin bref, toutes les choses qui touchent à leur, leur vie d'indépendant. C'est quoi la question que tu as envie de leur poser?
Alors pour moi, c'est marrant, beaucoup parlent de... sont à la recherche de hacks dont on parlait tout à l'heure ou de conseils de productivité. Moi, j'aurais tendance à donner des conseils de proactivité dans le sens où, pour moi, il faut identifier tous les domaines sur lesquels on a une approche assez passive et faire en sorte d'avoir une approche beaucoup plus active sur ça. Typiquement, la lecture, beaucoup ont une approche assez passive, c'est-à-dire vont lire des choses qui tombent par leur algorithme Facebook ou alors parce qu'on leur envoie et parce que c'est bien de l'avoir lu. Mais pour moi, non, il faut vraiment aller chercher ce qu'on a envie de lire, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de penser. Et donc, c'est pour ça que pour moi, par exemple, aller sur sur Twitter, c'est quelque chose qui est le fait de suivre des gens. D'ailleurs, il y a un bouton follow, c'est ça qui est marrant. Tu vois, c'est une démarche proactive. C'est-à-dire, cette personne, j'ai envie d'en savoir plus, je la suis. Tel newsletter, tel podcast, j'ai envie d'en savoir plus sur ce que dit cette personne. Eh ben, je vais le suivre, je vais m'inscrire. Et donc, réduire un petit peu tous les domaines sur lesquels on est passif et en faire des créneaux sur lesquels on est actif, c'est pour moi un conseil de proactivité qui est très sous-estimé aujourd'hui.
Du coup, comment tu traduis ça en une question pour que les gens... La raison pour laquelle je suis attaché à la question, c'est que quand on se pose des questions de plus en plus, de meilleur en meilleur, et du coup de plus en plus tournées vers notre expansion, on trouve nos propres réponses qui sont de mieux en mieux. Alors que les conseils, on les reçoit comme parfois des injonctions, et on se dit assez intéressant, mais on ne les applique pas. Quand on se pose des questions à soi-même, je trouve qu'elles sont beaucoup plus puissantes d'en trouver des solutions qui nous semblent. Donc comment on peut traduire ce conseil en une question pour que les gens réfléchissent?
Alors, ma question, alors c'est marrant... je suis en train d'envisager plusieurs noms là pour ma newsletter payante. Et il y en a un que je suis en train d'envisager, c'est en faire la Black Swan Collection. Pour moi, le Black Swan, ça a été utilisé par plusieurs types de personnes. Notamment, c'est un film que beaucoup de gens connaissent, qui est très important. Et c'est aussi un des livres, une des théories de Nassim Nicholas Taleb. Je sais plus. Bref, Taleb. Et j'ai fait genre 2 heures de vidéo de lui où il expliquait un petit peu, soit lui, soit d'autres personnes expliquaient sa théorie du Black Swan. Et il y a une chose que j'aime bien en fait dans les questions que pose Taleb, c'est qu'est-ce que vous ne savez pas. Et ça pour moi c'est la question que j'aurais envie de poser à tes auditeurs et à quiconque aujourd'hui. C'est qu'est-ce que vous ne savez pas et comment savoir ce que vous ne savez pas aujourd'hui. Alors ça devient un peu deep, un peu méta, mais bon,
non,
pour moi
génial,
c'est quelque chose qui est vraiment important. Et
je voudrais louper sur ce que tu disais au début sur la proactivité. La question, ce serait du coup, qu'est-ce que vous ne savez pas et comment vous pouvez prendre une démarche proactive pour aller savoir plus sur ce que vous ne savez pas.
C'est ça. Okay. Globalement, c'est plutôt bien résumé.
Trop bien. Où est-ce que j'envoie les gens qui voudraient échanger avec toi, Benjamin? C'est où le meilleur endroit pour suivre ton contenu? J'imagine Plume ou Attitude.
Alors oui, tout simplement, ils peuvent s'inscrire sur Plume ou Attitude. Ça leur donnera accès à mon email sur lequel ils peuvent me contacter, sur LinkedIn également, et sur Twitter. La meilleure façon d'accéder, je pense, à ce que j'aime bien, à découvrir ce que je fais et ce que je pense, c'est d'aller sur Twitter, que je traite depuis 5 ans comme mon second cerveau.
Ok.
Et donc c'est @BenjaminPrune.
Ok, je mettrai le lien dans la description.
Voilà, je pense que c'est une bonne approche.
Ben, merci beaucoup pour cette discussion, Benjamin, et à bientôt sur le podcast.
Ben, écoute, merci à toi, Thomas.
Ciao.
Ciao.
J'espère que cet épisode t'a plu et que tu as apprécié le partage de ressources à la fin de l'épisode. C'est pas des questions que j'ai l'habitude de poser sur le podcast, et ceux qui ont écouté tous les épisodes le savent, mais comme je sais que Benjamin consomme beaucoup de contenu, suit des personnes très intéressantes, avec des réflexions diverses et variées, je me suis dit que ça pourrait être à votre service de lui poser cette question, notamment sur le sujet du copywriting qui est très intéressant. Et je vous demande aussi de bien prendre le temps de réfléchir à la question du jour, parce que ça vous permettra d'aller creuser des aspects de votre activité que vous n'avez peut-être encore jamais explorés. Ce qui est toujours une bonne chose pour nous ouvrir à de nouveaux horizons et potentiellement trouver une voie que l'on n'imaginait pas auparavant, mais qui pourrait bien mieux nous correspondre. Donc posez-vous bien cette question. Et de mon côté, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée et de vous dire à la semaine prochaine sur Young, Wild and Freelance. Bye bye.